thème de prédication ce matin, j'avais reçu depuis 15 jours, j'avais envie de parler des armes et des outils qu'on peut utiliser dans le combat spirituel pour notre libération. Voilà, donc j'ai travaillé un petit peu plus d'une semaine, j'ai pris plein de notes. Et puis vendredi soir, et puis hier matin, finalement ça a un petit peu changé. Et j'avais à cœur de présenter qui est Dieu tout là-haut. On lit assez peu de textes. Et donc ce matin, finalement, je vous parlerai de tout ce contexte spirituel céleste. Qui est l'Éternel des armées dans les lieux célestes? Et ce sera une introduction, une deuxième partie, une autre fois, sur toutes les armes spirituelles que Dieu nous a données, voilà, pour bien vivre et puis amener chacun à la libération. On trouve à peu près, oula, presque 200 fois l'expression l'Éternel des armées dans l'Écriture. Il y avait Sabaoth ou Sébéoth, après tout dépend. Il est question du Dieu tout-puissant, du Dieu qui combat, du Dieu qui est aussi au service d'une armée. On trouve ça 80 fois dans Jérémie, 14 fois chez le prophète Agée, 50 fois dans le prophète Zacharie, 50 fois dans le prophète Malachie, et puis plein d'autres fois dans l'Écriture, donc à peu près le sens. C'est une expression importante. Puis je m'aperçois finalement, c'est vrai que je n'ai jamais rien apporté là-dessus. Alors on va lire pas mal de textes. Je m'effacerai un petit peu derrière les textes qu'on va lire. Moi, j'aime bien qu'on lise l'écriture dans l'Église. Parce que si ce n'est pas là où on la lit, on peut faire plein de commentaires. Mais parfois, l'écriture est son propre commentaire. L'Éternel des armées, alors l'armée de Dieu, c'est tous les astres dans les cieux. Il a dit que c'est l'armée de Dieu. Le soleil, la lune, les planètes. On va voir en ce moment un peu la planète Mars et on a des sondes qui vont jusqu'au bout de l'univers. Et puis, quand on est au bout de quelque chose, on se dit, mais il y en a encore tellement autour, donc on n'en fera pas la fin. Tous les anges et les archanges, c'est l'armée de Dieu. Et aussi, nous, les saints. Alors aujourd'hui, ce n'est pas très populaire tout ce qui est combat, armée. Bon. Le Seigneur est quand même l'Éternel des armées. Et je trouve que c'est une belle expression. On démarre avec un texte dans les psaumes. Psaume 24. On lira les versets 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je ne sais pas si vous avez envie de rencontrer le roi de gloire, de faire de la place dans vos vies. Rencontrer le Dieu vivant est la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est une rencontre qui compte pour l'éternité. C'est plus fort que le travail, plus fort que les parents, plus fort même que son conjoint. Je le dis parce que parfois on a l'impression que nos enfants, notre vie professionnelle, enfin, il y a plein de choses qui remplissent notre vie et qui comptent pour nous. Mais est-ce que le roi de gloire compte plus que toute autre chose? Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et il est celui qui revient bientôt, qui puisse faire son entrée dans nos vies, sur Israël, sur les nations. En ce moment, je lis un gros livre que j'ai acheté il y a quelques années, je ne l'avais pas lu encore quand Porte Ouverte est venue ici. C'est sur les différentes maisons de l'islam dans 5 régions du monde. Il y a tout un pan de travail de Dieu que l'on ne voit pas. en Asie, en Afrique, voilà, dans plein d'endroits du monde. Christ à la rencontre des musulmans, plusieurs niveaux. Certains vont quitter, sont éjectés de leur famille, sont exclus de leur famille. D'autres y restent, d'autres continuent à aller à la mosquée. Puis en même temps, dans leur cœur, ils ont le témoignage de Issa, de Jésus. Et certains, comme ça, dans leur cœur, savent qui est Christ, le Fils de Dieu. Simplement, ils vont utiliser les mots de l'islam, le mot du Coran, pour témoigner autour d'eux. Et il y a des centaines de milliers de chrétiens non déclarés dans le monde de l'islam. Et je suis touché, je lis ça un petit peu tous les matins, mais je me dis, Seigneur, tu es capable de faire aussi une œuvre cachée que les nations, que les religions ne voient pas encore, mais qui existe et qui est réelle. Parce que des hommes ont été dans ces lieux, dans ces contrées, et ont fait des enquêtes, et leur ont demandé, mais comment tu as rencontré le Christ, Issa? Et comment est-ce que tu témoignes, comment est-ce que tu vis? Et même si tu le vis caché, comment est-ce que c'est? Et on sait que c'est réel et vrai. Alléluia, qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Dieu agit toujours dans le monde, même s'il y a une partie qui est cachée. Exode, chapitre 25. On va lire différents textes où Dieu, comme ça, apparaît, demande des choses et paraît dans sa gloire de l'Éternel des armées. Exode, chapitre 25, les versets 16 à 22. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2,5 coudées, sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. C'est un peu petit, hein, je n'ai pas eu le temps de faire des photos, d'agrandir. Et puis, vous avez tout un livre là sur l'arche du témoignage. Et puis on retrouve ce coffre avec ces chérubins. Ils sont en bois recouverts d'or. C'est dans cette tente et dans ce lieu très saint que Dieu rencontrait Israël. C'est là où seulement le grand prêtre entrait avec du sang d'animal et faisait l'aspersion. Les chérubins regardaient le coffre. Ce sont les êtres angéliques qui protègent la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Aucun être pécheur ne peut approcher de Dieu sans avoir le pass. Tu as ton pass, tu as le sang. Le sang est un pass sanitaire. Si une fois vous êtes énervé avec tout ce qui se passe depuis 2 ans, je vous invite à lire le livre du Lévitique. C'est un livre de passe sanitaire. C'est pour Israël tout ce qu'il faut faire pour la santé, pour la rencontre avec Dieu, mais pour la santé. Si tu as des dartes, si tu as une lèpre, si tu as... Enfin voilà, tout ce qui est de la santé corporelle, mentale et spirituelle, jusque dans les choses occultes, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le Lévitique est un passe sanitaire. J'ai repris tout un livre que j'avais depuis pratiquement 20 ou 30 ans de M. Klopfenstein, qui a travaillé parmi tous les jeunes, et il a fait sa thèse de médecine sur la Bible et la santé. Et j'étais étonné de voir que, voilà, c'est pas nouveau, les choses sanitaires, les barrières sanitaires. Dieu les a données à Israël déjà il y a 3500 ans. Voilà, donc si vous êtes déstabilisé par cette période, reprenez tranquillement le livre du Lévitique à la maison, et puis peut-être vous direz, ah bah oui, Seigneur, voilà, c'est des choses qui ont existé et puis qui existent encore. Un seul lieu pour rencontrer le Christ, après la période de désert, c'est à Jérusalem, pendant 1500 ans, il n'y avait qu'un seul endroit où on faisait l'aspersion du sang et où Israël pouvait rencontrer Dieu, et où les péchés étaient pardonnés, où le sang venait purifier de tous les péchés. Un seul homme y entrait, mais tout le peuple était béni. Et puis, quand j'étais en Israël, il y avait un fac-similé, une reconstitution de l'Arche de l'Alliance. Et puis alors, on se racontait tout plein d'histoires. Et en fait, du lieu très saint, il y avait une corde. Et puis, le souverain sacrificateur, il était attaché par la taille. En cas où il lui arrive quelque chose dans le lieu très saint. Soit que la procédure de sanctification n'ait pas été respectée, soit qu'il ait un AVC, une crise cardiaque, enfin voilà, quelque chose qu'on puisse le tirer de là sans y entrer. C'est un lieu où un seul homme entrait une fois par an. Et pendant des années, ça s'est perpétué. Il y avait un voile super épais dans ce livre. Il est détaillé. Il y avait un voile avec des chérubins qui étaient tissés dessus. En dehors du souverain sacrificateur, personne ne pouvait ouvrir, pénétrer derrière ce voile. Le grand changement, c'est sur la croix, quand le côté de Jésus a été percé. Quand il est mort, il dit, le voile du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas et on est entré dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle alliance. Mais pendant plus d'un millénaire, eh bien, voilà, il n'y avait que ça. Et depuis, il ne reste à Israël que l'ancienne alliance, la loi de Moïse, l'Ancien Testament, c'est ce qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Mais pour nous, depuis 2000 ans, quelque chose de nouveau est né. On peut rencontrer l'Éternel des armées au travers de Jésus, au travers du sang de Jésus. Les chérubins laissent passer le sang de Jésus. Et on peut voir la gloire de Dieu. Alors peut-être pas tous les jours, mais il y a sûrement des moments dans votre vie où vous avez vécu quelque chose de fort. Ésaïe, chapitre 6. Je vous proposais un petit parcours dans l'Écriture, dans les prophètes, pour parler un petit peu de cet Éternel des armées qui est dans les cieux et comment on peut le rencontrer. Allez, je vais lire les 8 premiers versets de ce chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait. La maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il l'avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » On ne pénètre pas dans la présence de Dieu. Je dis parfois, voilà, en bleu de chauffe, avec des gros sabots, en tenue de travail, il y a un protocole. Il y a un protocole déjà de purification. Sinon, il y a un problème avec ces êtres extraordinaires qui portent le trône de Dieu. Et tout d'un coup, Ésaïe l'a ressenti dans son être profond, dans son cœur, dans sa pensée, dans son esprit. Tout d'un coup, il dit « Waouh !» je suis dans la présence de l'Éternel des armées. Et il savait que c'était un lieu dangereux s'il n'y a pas le sang, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une action d'expiation, de purification. Et ce séraphin qui est chargé de la sainteté de Dieu a vite pris un charme ardent, puis il a dit, mais bon, voilà, on va régler le problème. C'est seulement après toutes ces choses-là, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Pénétrer dans la présence de Dieu, un petit peu de protocole en trois phases. Je l'ai appris dans mes premières années de vie chrétienne. Entrer dans sa présence avec des louanges. Et puis ensuite, entrer dans le lieu saint, dans l'adoration, dans la contemplation, dans la confession du nom de Jésus. Et ensuite, ce voile déchiré, entrer dans la présence de Jésus. Et puis là, on peut se lâcher. Là, on peut vivre des choses extraordinaires. On peut confesser à toute puissance le nom du Christ Jésus. On peut le dire doucement, on peut le crier, on peut le hurler. On peut le dire à la face du monde, à la face de l'ennemi. Jésus, le roi de gloire. Séraphin, ça veut dire brûlant, brûlé, ardent. C'est les êtres qui gardent la sainteté de Dieu. C'est pour ça que voilà, l'Écriture dit « Nul ne peut voir Dieu et vivre. » S'il n'y a pas une action d'expiation, de purification, s'il n'y a pas du sang versé ou une action spécifique, on voit que là, il y en a une. J'aimerais continuer en lisant un autre texte dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 1. Les versets 4 à 14, on va explorer comme ça différents textes où Dieu est dans sa gloire. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Et au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli sortant du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'air impoli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes, à leurs quatre côtés. Tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne tournaient pas en marchant, chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre une face de lion, à droite. Tous quatre une face de bœuf, à gauche. Tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne tournaient pas dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Il en sortait des éclairs. Les animaux couraient, revenaient comme la foudre. Aux USA et dans d'autres parties du monde, on fait plein de films en ce moment fantastiques sur toutes sortes d'autres choses. Mais je trouve que dans l'écriture, il y a bien mieux. La présence de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Avec Albert Leclerc, un ami au collège public, il était architecte, alors on essayait de dessiner toutes les visions d'Ézéchiel. Alors il y a des roues, il y a des yeux autour, il y a une espèce de chariot, il y a le trône de Dieu, il y a des éclairs. Là, c'est... Alors ceux qui ont de l'imagination et qui savent dessiner, ah, ils peuvent voilà, essayer de représenter un petit peu ces êtres qui ont en même temps des formes d'animaux et puis une ressemblance humaine. Et puis, il nous est parlé là de quatre choses importantes. Ils avaient chacun une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf et une face d'aigle. On en parlera plus tard dans un deuxième temps. Ça peut nous parler aussi de toutes les expériences que l'on peut faire. Depuis que Jésus a donné sa vie sur la croix, je pense que Dieu juge moins utile de nous faire partager une vision de tous ces animaux-là. Voilà tout ce que j'ai pu lire hein, sur des enfants ou des gens qui ont, voilà, à la suite de jeûnes ou à la suite d'expériences incroyables ou à la suite de mort-résurrection, voilà, qui ont été auprès de Jésus et auprès de Dieu dans le paradis. Aucun raconte avoir vu ces êtres-là. Mais en même temps, c'est une réalité céleste et spirituelle. À la limite, ces êtres sont presque plus réels que nous. Ils existent de toute éternité. Et ce sont eux qui portent la gloire de Dieu. Cette mer de verre, cette mer de cristal, et puis avec cette personne. On a eu une parole ce matin où il était question d'aller rencontrer la personne de Dieu au travers de Jésus. Mais quand on lit ce texte, c'est une réalité spirituelle. Moi, j'ai toujours aimé dans la prière confesser ces textes de l'Écriture et dire « Oui, Seigneur, tu es réellement ce qui est écrit dans ce texte. » Et c'est bien plus extraordinaire et bien plus merveilleux que tout ce que le cinéma, les livres et puis tout ce que l'intelligence humaine peut produire. Un jour, nous verrons toutes ces choses. Je me réjouis de les voir. Le verset 20 dans le même texte, « Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. » Voilà, je me dis, je ne sais pas réellement... comment décrire, comment dire ce que c'est que ces êtres extraordinaires. Mais en tous les cas, ils sont réels et ils existent. Versets 26 à 28. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc-en-ciel qui est dans la nuit, un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. On ne peut pas voir Dieu sans tout d'un coup être à genoux ou allongé, parce qu'à un moment donné, le différentiel est trop grand. Que ce soit Ésaïe, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Moïse, seuls quatre hommes ont eu ces visions. Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, puis on va lire un texte dans l'Apocalypse après. Quatre hommes ont eu cette vision de la réalité du trône de Dieu et de ces êtres extraordinaires qui portent la gloire de Dieu, sa puissance, sa sainteté. Donc ce n'est pas étonnant que pour nous, il y a un différentiel. Il a fallu que Jésus viennent en chair, Dieu en chair, Dieu dans un être humain, pour que quelque chose d'autre se passe et qu'on ne soit pas aveuglé, confus, détruit par cette vision de Dieu extraordinaire. On continue avec un texte justement dans l'Apocalypse au chapitre 4. On voit que les prophètes, comme ces visions, ils ont de la peine à décrire ce qu'ils ont vu. Ils disent, il y avait la forme, c'était une image de... La réalité est tellement forte que la décrire, c'est... Et le choc sur l'esprit humain est tellement grand que c'est difficile de savoir comment faire avec cela. Allez, je lis Apocalypse 4, 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. » Ces êtres extraordinaires, chérubins, séraphins, sont ceux qui gardent la création. C'est un mystère. Ils représentent la création. Les 24 vieillards représentent le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple de la Nouvelle Alliance. Quand nous sommes dans la louange et dans l'adoration, devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu, ce texte-là peut être vrai pour nous. Nous partageons la même expérience que tous ces êtres célestes. Ça demande peut-être un peu de discipline, il faut peut-être aller le chercher. Alors peut-être c'est des textes qui nous font peur, peut-être la crainte. Moi j'ai mis des années à lire, relire ces textes et à me dire, mais voilà ce que tu es, je veux l'être, je le suis en Jésus. Mais c'est tellement extraordinaire d'avoir des textes qui nous disent ce qu'est en réalité la personne de Dieu. Alors on n'a pas des visions comme ça tous les jours, hein, on ne ressent pas. Ça, vous savez que je prends du recul, mais par rapport à ce que l'on ressent. La vie chrétienne, c'est aussi par la foi. Ce matin, il y a une parole, quelqu'un disait, voilà, par la foi, je saisis, voilà, que je ressente ou que je ne ressente pas, la réalité de Dieu reste la même. Souvent, on est un petit peu craintif, et puis... Comment exprimer ça ? Jean-Marc, on parle souvent, on met l'ennemi un petit peu trop haut. On a l'impression que c'est lui qui domine le monde, donc on est un peu... La réalité de l'Éternel des armées, du Dieu Tout-Puissant, du Christ Jésus, mort et ressuscité dans la gloire, est bien plus grande et bien plus forte que tout ce qu'est l'ennemi. C'est pour ça que je voulais lire ces textes ce matin. Parce qu'avant de savoir quelle est la richesse des armes de Dieu et de notre délivrance, de notre libération, c'est de mettre Dieu tellement haut que l'ennemi, voilà, il est là, il n'est pas présent partout, il n'est pas tout puissant, il ne sait pas tout. Ça, c'est une réalité, réalité spirituelle, céleste. L'ennemi est limité. Comme la mer, Dieu lui a fixé des limites. Il lui a dit, voilà, tu pourras faire des vagues et éventuellement un tsunami de temps en temps, mais voilà, tes bornes s'arrêtent là. L'ennemi est borné. Il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Dieu est sans limite. Et ce qui était inaccessible, ce qui était pour un seul homme dans l'ancienne alliance, est accessible à tous depuis deux millénaires. Depuis la mort de Jésus sur la croix, le voile s'est déchiré, ce qui voilait la présence de Dieu. Ce très beau texte dans Isaïe, si tu déchirais les cieux, Dieu a déchiré les cieux en Jésus-Christ. La parole a été faite chair. Il a été comme un homme comme nous. Tous ces textes qu'on lit de la gloire de Dieu, vous voyez ce que Christ a abandonné. Christ a abandonné cette place, cette position, pendant un temps, à la droite du Père, le Fils bien-aimé, aîné de la Vierge Marie, à Nazareth, à Jérusalem, dans un petit pays, simplement 33 ans de vie, une fin ignominieuse sur la croix, mais il a ouvert quelque chose d'autre pour l'humanité, pour l'éternité. Souvent on se dit, mais comment est-ce que Dieu a pu créer le monde ? Voilà, on pense que être humain, il dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Les animaux, bon, on voit que de toute éternité dans le ciel, il y a un veau, il y a un lion, il y a un aigle. On en parlera plus tard. J'aime beaucoup les textes, moi, qui parlent de l'aigle, le discernement, les hauteurs spirituelles en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. J'aimerais lire encore avec vous un texte dans Genèse 3 pour vous montrer le sérieux de Dieu et puis la réalité de ces êtres angéliques. Genèse 3, les versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. » Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il y a des jeunes gens riches dans le domaine numérique aux États-Unis qui développent tout un mouvement humaniste transformiste qui pense que dans quelques années, on pourra changer des morceaux de l'être humain, des kits. Bon, on le fait déjà pour les hanches, pour le cœur, mais qui veulent aller plus loin et qui un jour pensent qu'on pourra 120, 150, 200, 120 ans... Ouais. Ce texte nous dit qu'ils n'y arriveront pas, ce n'est pas possible. Là aussi, l'être humain est limité dans sa connaissance, dans sa science. Aujourd'hui, on place beaucoup d'espoir dans les choses quantiques. On ne sait même pas tout ce que cette science pourra développer dans plein de domaines. Aujourd'hui, ça donne le vertige. Mais en même temps, il y a une limite, il y a des bornes. Dieu permet que l'être humain, que l'humanité progresse par bons successifs jusqu'à aujourd'hui. Des choses qui n'existaient pas il y a encore 60 ans. Les fours à micro-ondes, les smartphones, etc. Mais il y a des gars aux États-Unis, milliardaires en dollars, qui veulent aller plus loin et qui rêvent de transformer, qui veulent aller habiter sur Mars ou sur d'autres planètes et qui veulent. Et Dieu dit, stop, on ne peut pas aller plus loin. L'arbre de vie n'est plus accessible, n'est accessible qu'en Jésus. Du temps d'Israël, l'arbre de vie n'était accessible que dans le lieu très saint, Jérusalem. Une fois par an, on faisait le pardon des péchés. Aujourd'hui, jour après jour, nous avons accès à Dieu, Père, Fils, esprit. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ainsi, à l'apprentissage du choix. Ce matin, il y a une parole où il était question d'un choix. Dieu peut faire quelque chose maintenant, là, instantanément. Choisis. Choisis qui tu veux servir. J'aime beaucoup ce texte de Josué, la fin de Josué, qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le meilleur des choix. Je vais finir avec un texte dans Éphésiens, et puis ce sera le point d'appui pour une fois prochaine, pour voir toutes ces armes de Dieu. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Tous ces textes que l'on vient de lire, nous y avons accès par Jésus-Christ, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il a fallu quelques années pour entrer dans ce texte. On était quelques-uns au collège biblique à aller rencontrer le directeur de ce collège biblique qui s'appelait Siegfried Beck, qui était apôtre, qui avait une grande expérience. On a passé une après-midi. Je dis là, moi j'ai passé une après-midi comme les textes que l'on a lus. L'impression d'être dans le conseil de Dieu avec un homme qui nous expliquait qu'est-ce que c'est que les lieux célestes. Ce lieu d'expérience où on apprend à faire le choix, Christ, pas Christ. Parole de foi, une parole de doute, une parole de... Ce matin, on a eu des chants hein, qui nous permettaient d'exprimer notre choix. J'ai connu la vie sans Dieu. Au travers de l'alcool, la drogue, les expériences occultes, j'ai touché un monde spirituel. C'est pour ça que je disais, on n'y va pas avec des chaussures de sécurité, avec ses gros sabots et puis son bleu de travail. Les lieux célestes, c'est un monde dangereux. Et quand on a pratiqué des choses occultes, pour s'en dégager, il faut de la fermeté, de l'autorité, de la ténacité. C'est ce qu'on verra, hein, toutes les armes de Dieu. Ceinture de la vérité, casque du salut, le bouclier de l'esprit, voilà, toutes ces choses que Dieu nous a données. Ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est une réalité pour une vie de victoire. On a chanté ce matin, victoire au Seigneur de la vie. Je vous le relis. Hein. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce que le souverain sacrificateur vivait une fois par an, on peut le vivre 24 heures sur 24. Aucun prophète n'a eu accès à l'accès qu'ont les disciples du Christ Jésus en termes de vie, de victoire, de révélation, d'intelligence, de sagesse. Et pourtant, quand on a lu hein, l'histoire de Moïse qui a fabriqué cette arche, l'histoire d'Ésaïe qui a eu cette révélation tellement extraordinaire, Ézéchiel qui a vu des choses que peu d'hommes ont vues, nous avons accès au même niveau, sinon plus, de révélation, de comprendre les choses encore plus finement. Je vais clore en disant, on dit Maranatha, viens Seigneur Jésus. Voilà, vous pourrez jeter un petit coup d'œil sur ce... C'est un très beau livre hein, sur le tabernacle. Tout est détaillé. C'est très, très beau. Et puis, bon, je vous présente encore quand même deux livres. Le voile déchiré, Andrew Murray, sur l'épître aux Hébreux. C'est tout ce dont j'en viens de parler. Comment est-ce que Dieu peut être accessible? Première édition, 1894. Deuxième édition, 1923. Celle-ci, le livre un peu défraîchi, 1953. Mais c'est sur l'Épître aux Hébreux, c'est phénoménal. Tous les papiers volent. Je vous présente encore quand même un autre livre qui vient de paraître, hein, « Les mystères de l'Apocalypse », une enquête sur le livre le plus fascinant de l'histoire, Jean-Marc Taubois. C'est le dernier qu'il a écrit, qui a paru post-mortem. Donc il est tout frais, vous pouvez jeter un coup d'œil. Vous n'embarquez pas ou... Je peux pas voir disparaître, mais voilà, vous pouvez les regarder, puis il y a moyen de les commander. On peut rendre grâce ensemble. Père céleste, éternel des armées, Seigneur Christ et Jésus, Esprit du Dieu vivant, Dieu trinitaire, merci de d'éclairer notre esprit et nos pensées. Aide-nous à nous tourner vers toi entièrement, profondément, complètement. Merci pour cette puissance de ton salut. Merci pour sa hauteur, sa profondeur, sa longueur. Christ et Jésus. Merci pour ta mort sur la croix. Merci pour ce pain, ce vin que l'on va partager. Merci parce que tu es la parole vivante de Dieu. Parole écrite, mais qui est rendue vivante pour nous par le Saint-Esprit. Pain et vin, voilà, qui symbolisent ton corps, ton sang, versé pour chacun. Merci pour l'expiation, la propitiation. Merci de couvrir nos vies. Et merci de nous purifier, d'enlever le péché, pas seulement le cacher, le tamant, mais vraiment l'enlever. Seigneur, merci de nous voir purs, saints, innocents, sans tache, sans reproche. Merci pour ces paroles extraordinaires de l'Écriture qui peuvent apaiser et calmer nos cœurs. Amen. Voilà, je vais laisser la place à Christine Hervé pour partager le repas du Seigneur. Est-ce qu'on prend le dernier chant pendant que tout se prépare? On pourra chanter plusieurs fois. Comment? On peut reprendre un autre chant peut-être, le temps que tout se prépare. Moi je choisirai Victoire. Allez, on reprend Victoire au Seigneur de la vie. Comme ça aussi, chacun peut s'approprier ce message.